des questions au sujet de la forme dont quelque chose a été dit et on fait de la logique des quatre coins. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Pas dans la forme, mais dans le fond. Et alors le thème principal qui nous a été donné, c'est que le développement de l'histoire de l'humanité passe par quatre stades que le texte appelle les quatre malchouyot. Rav Zuckerman a dit les quatre royautés, mais on a l'habitude de dire les quatre empires. Les quatre royaumes, si vous voulez. Et alors, il y a eu d'abord le texte de Daniel, de la vision de Daniel, ensuite le Midrash, qui montre que dès le projet de la création, ces quatre stades de développement des civilisations étant potentiels, par rapport au verset 2 de Bereshit, « Va'aretz hayta tohu va'bohu v'chosher al pene tehom », et ensuite, le Maharal a commencé à identifier, en se basant sur ses sources, ces quatre grands empires qui d'ailleurs dans l'histoire se développent en fin de compte dans certaines sources dans quatre empires qui sont cinq, mais je vais les énumérer. Et il y a eu d'abord la civilisation de Babel, et l'Égypte est une sorte de, comment dire, de pas d'annexe. L'Égypte est une sorte de je ne sais plus parler français. Voilà ce que je veux dire. L'Égypte est une sorte de... Le mot qui me vient, c'est colonie, mais ce n'est pas une colonie. C'est une sorte de prolongement, d'achèvement, de développement de la civilisation de Babel. Vous verrez quand nous reprendrons l'histoire parallèle, l'histoire d'Israël et l'histoire de la civilisation en général, que Abraham sort de la civilisation de Babel. Et puis, finalement, la première relation au monde extérieur de la société d'Israël fondée par Abraham se passe en Égypte. Voilà, le mot que je cherchais, c'est une annexe de la civilisation de Babel. Un peu comme on pourrait dire aujourd'hui que la civilisation américaine est une sorte d'annexe de la civilisation européenne. Mais c'est la même koufa tarboutite, c'est la même étape culturelle, c'est la même étape de civilisation. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? D'ailleurs, elle a en réalité deux annexes. La civilisation européenne, c'est d'un côté l'énorme bloc de la Russie soviétique et de l'autre côté l'Amérique. Et vous voyez, un peu comme de Canaan, il y a d'un côté la Syrie, A2SY, Babel, et de l'autre côté Mitzrayim. Vous voyez, c'est une image, encore une fois. Mais ça ressemble beaucoup. L'Europe, au milieu de l'Amérique et de la Russie, et vous savez à quel point dans les jours où nous sommes, le problème politique contemporain, c'est l'Europe coincée entre l'Amérique et la Russie. Vous suivez ça un peu dans les nouvelles. Et vous voyez à peu près le pays de Canaan entre Mitzrayim et Babel. Et lorsque Mitzrayim et Babel sont en conflit, ça passe à travers Canaan. Et de la même manière que, on ne sait pas l'avenir, mais peut-être que s'il y a un conflit entre l'Amérique et la Russie, c'est l'Europe qui craint d'être le champ de bataille. Vous voyez à peu près le problème. Bon. Donc, Mitzrayim, ça fait partie du premier empire, Babel. Ensuite, il y a eu l'empire qui était appelé Madaï, les Mèdes. Mais, vous le savez aussi, il y a deux étapes, les Perses et les Mèdes, Paras ou Madaï. Mais ça va ensemble. Bien. Ensuite, c'est Yavan, le troisième, la Grèce. Et ensuite, c'est Édom, Rome. Le Rav Zuckerman a dit tout à l'heure les chrétiens, mais il y a aussi deux niveaux. La Rome impériale, la Rome païenne et la Rome chrétienne. Mais c'est le même ensemble, c'est Rome. Voilà donc les quatre qui sont cinq ou six suivant les subdivisions. Comme le Rav Zuckerman l'a dit tout à l'heure, le Rav Zuckerman c'est long, je vais dire Yoshua, on est amis d'enfance. Donc. Comme Yoshua a dit tout à l'heure, ces quatre, là, des quatre points cardinaux, le jeu des quatre coins, c'est un jeu goy par excellence. D'ailleurs, ce que j'ai entendu entre autres choses, une belle définition. Le jeu de Goy, par excellence, c'est le billard. Vous voyez ? On prend les choses qui sont au centre, on les envoie aux quatre coins, et ça tombe dans des trous. Vous avez remarqué cette définition ? Bien.
Par rapport justement aux quatre royaumes, et à la façon dont on nous a présenté les royaumes avec ces quatre animaux particuliers.
Oui, j'y arrive, Eric. Alors, en me basant sur la suite du Maharal qu'on n'avait pas dans le texte, mais sur la suite. du texte. D'abord, je vous fais le plan schématique. Et il est bien évident qu'il y a eu relation de galoute d'Israël avec ces quatre exposants, vous voulez, de la capacité de civilisation humaine, qui chacune d'entre elles avait une vertu dominante, et donc partielle. Bon, et nous allons reprendre à travers le Maharal d'ailleurs l'identification, mais je veux arriver assez rapidement à identifier ce qu'a représenté dans ce problème la Grèce, puisque le problème de Hanouka, ça a été le conflit entre Israël en tant qu'unité du cinquième royaume par rapport à ce qu'a été la culture grecque. Et puisque, de façon résumée, Hanouka commémore la Géoula, la délivrance d'Israël dans ce conflit, en particulier avec la Grèce. Et d'abord, je voudrais vous faire un schéma assez général et que vous aurez l'occasion de reprendre très en détail dans toutes les études que vous aurez pendant l'année. Alors, il y avait un exil du peuple hébreu à Babel. C'était l'exil des Hébreux d'où sort Abraham. Mais là, c'était un exil total, profond. L'identité hébraïque était dans une clandestinité absolue et dans un aspect, dans une apparence non diagnostiquée, très clandestine, enfouie, qui était l'identité araméenne. Et c'est pourquoi Abraham, qui sort de cet exil de Babel, apparaît sous forme d'araméen, mais on l'appelle dans la Torah Abraham à Ivri, Abraham l'hébreu. Son nom Abraham, c'est son nom araméen. Le nom Abraham sera le nom hébreu, ça vous apprendrez plus tard en détail. Mais là, je voudrais, éclaircir un cliché. Enfin, peu importe les mots, aujourd'hui je ne parle pas le français. Les barrières, monsieur, qui est quelque chose de faux. On croit que Abraham était de Chaldée, était de Ur-Kasdim. Ça, nous avons appris dans un des cours d'anciens hébreux, il me semble. Okay. On croit habituellement qu'Abraham était un Irakien, qui était cette région-là, l'Irak, la Syrie, tout ça. Qu'il était vraiment un homme de cette identité-là. Et qu'il est devenu en hébreu qu'en arrivant en Eretz Knaran, qu'en arrivant en Eretz Israël. Lorsqu'on étudie attentivement les sources, ce n'est pas du tout cela. Abraham, c'est l'exil des Hébreux dans la civilisation de Babel. Mais tellement fouille, tellement clandestin, que ce n'est pas perceptible. Et une famille, celle d'Abraham, sort de cet exil. C'est pourquoi il sait où il va quand il sort de Kasdim. Il revient chez lui. Est-ce que c'est clair? Vous verrez très, très clairement ça dans le texte. Hein, que avant le début de la paracha de Lech Lecha, Dieu se révèle à Abraham pour lui dire « Va vers le pays que je te montrerai, que je t'indiquerai. » Et on voit finalement qu'Abraham se dirige vers l'endroit de Jérusalem. Dans les versets précédents, on apprend, avant que Dieu ne se révèle à Abraham, que cette famille de Terah, Abraham, Nahor, ont quitté Ur-Kasdim pour se diriger vers le pays de Canaan. Ils savent où ils vont. Ils rentrent chez eux. Donc, la sortie d'Abraham de Ur-Kasdim, c'est déjà la fin d'un exil. Mais la fin d'un exil d'où une seule famille est sortie. Et l'analogie avec notre expérience de la fin d'exil contemporaine est très importante. Le Midrash la montre de façon très claire. C'est que Abraham avait été jeté dans la fournaise, okay, c'est pourquoi c'est le sens de Ur-Kasdim, la fournaise de Kasdim, et qu'il est donc, en termes contemporains, sauvé des fours crématoires. Nous sommes une génération d'Abraham d'une certaine manière. Mais que l'expérience d'Abraham a été celle-là. Il a été jeté dans le feu, il est sorti du feu. Bon. Et ceci dit, en fait, l'effectuation de cet exil se fera par rapport à Mitzrayim. Vous voyez, c'est indexé à Babel. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris quoi? Alors, ensuite, il y a eu l'exil dans le royaume des Mèdes qui a été conquis par les Perses. Ça, c'est tout ce qu'il nous a raconté à propos de Purim, le livre d'Esther, et la fin de ce deuxième exil dans le deuxième des Malchouyot. Et ça, c'est la sortie de Ezra et de Néhémie, la fondation du Beit Sheni, Shivat Zion, il y a 2600 ans à peu près. C'est clair? Ensuite, le troisième épisode est plus particulier, c'est la relation d'exil avec la civilisation grecque. Et le problème s'est passé en Eretz Israël même. C'est pourquoi ce n'est pas tellement visible que c'est la fin d'un exil, la victoire des Maccabées. Mais c'est peut-être plus important, plus profond que les exils extérieurs. C'est-à-dire, au temps des Maccabées, ce que commémore Hanouka, les Grecs étaient les possesseurs du pays, étaient les occupants du pays. Et l'identité Israël était exilée sur sa terre. Et donc, la fin de cet exil par rapport à Yavan, par rapport à la Grèce, c'est la victoire des Maccabées sur les Syrio-Grecs. On dit plutôt les Gréco-Syriens, je crois. Okay. Ça y est, je retrouve mon français. Et puis, après a commencé la relation avec le quatrième empire, qui est celui de Rome, et qui a été l'exil le plus long, 2000 ans, avec deux phases. La phase de la Rome impériale, qui a conquis la Judée, et qui a mis fin aux deux Malchut, au Beit Sheni, okay, au temps du deuxième temple, et qui a commencé cette deuxième grande diaspora, enfin qui est la troisième, après celle d'Égypte, et avec deux étapes, la Rome impériale, païenne, et puis très rapidement, quelques siècles après, au temps de l'empereur Constantin, la Rome chrétienne, donc, et de laquelle nous sortons actuellement. Vous voyez donc, il y a un schéma très clair. Voilà. Les quatre panchouillotes, la relation d'exil à ces quatre panchouillotes, de façon visible, c'est Mitzrayim, Babel, c'est-à-dire Madaï, Paras, et Yavan et Rome. Mais le schéma des trois exils correspond à la relation aux quatre malchouillotes. Ça y est, c'est clair? Bon. Alors là, je voudrais poser une des questions qu'a posé le Maharal et ensuite revenir à notre problème pour relier à Hanouka. C'est que chacune de ces civilisations a déployé, fait épanouir une des tendances, une des capacités, une des vertus de l'identité de l'homme en tant que créature limitée dans le vocabulaire de Joshua. Okay? De ces quatre capacités d'être homme qui n'est pas encore l'homme plus, l'homme du centre, l'homme du milieu, je ne sais pas comment dire. Bon. C'est clair ce que je veux dire. Et quatre types de forces. En particulier, nous verrons que la force humaine, je veux dire le koach de l'identité humaine développée par la Grèce, c'est l'intelligence. Et c'est pourquoi le conflit entre la Grèce et la Judée, au temps de Hanouka, commémore Hanouka, c'est un conflit idéologique par excellence. C'est un conflit de culture. Alors que, par exemple, la force déployée par ce qu'on va appeler l'Empire perse était la force vitale, la force biologique. Et vous voyez, les différentes tendances du nefesh humain, depuis le niveau matériel de la puissance, le niveau instinctif de la vie instinctive, la vie intellectuelle, le quatrième empire Rome, prétendant récapituler les trois et conquérir la terre entière, et ça a été effectivement l'histoire de la civilisation occidentale, de laquelle nous décrochons maintenant dans la fin de ce dernier régime. C'est clair, comme à la fin du quatrième empire. Et au fond, il faudrait dire les grands noms. Hein? Abraham, Moïse, Ezra, et après, Machéa Ben Yosef. C'est clair? Bon, et alors, Ben Yosef, j'ai dit. Et alors, la question que pose le Maharal, et après je reviendrai sur l'identification de ce conflit au niveau du Sehel, au niveau de l'intelligence, entre la Grèce et Israël. Et où on met Ishmael là-dedans? Et il pose une question, effectivement, qui ne fait aucune allusion à la puissance du royaume d'Ishmaël, de l'empire d'Ishmaël, qui existe de façon évidente, ça ne rentre pas là-dedans. Et c'est étonnant. Okay. Alors voilà quelle est la réponse du Maharal que je vais vous lire. Vous ne l'avez pas dans votre texte. Je vais lire d'ailleurs simultanément en hébreu et en français, c'est beaucoup plus précis. Rechan, Ramaz, Malchut, Ishmaël. Et où est allusion à l'empire d'Ishmaël, Shehi Malchut Rabata Vetakifa, qui est cependant un empire très grand et très fort. Et aujourd'hui, nous savons que c'est vrai. L'empire d'Ishmaël, aujourd'hui, c'est la puissance politique la plus grande du monde contemporain. Vous savez, ça. Et qui, Loyershav Akatu, Raka Malchut, Shekiblu Malchut Kadishin Elionim, Sheyarshu Mi Malchut Israël. C'est ce qu'a dit Joshua tout à l'heure. dans ce schéma des quatre empires, on ne parle que de ces quatre souverainetés qui ont pris cette souveraineté d'Israël. Vous vous rappelez ce qu'a dit Yeshua tout à l'heure, hein, que c'est une souveraineté qui appartient en principe au Atem Kroim Adam, à vous qui êtes l'homme par excellence, dans le sens qui a été expliqué tout à l'heure, mais nous reviendrons souvent sur ces problèmes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas des hommes. Hein. C'est clair ce que je veux dire. Mais ils sont des hommes à la manière du jeu des quatre coins, alors que, et inévitablement, regardez le symbolisme que les chrétiens ont donné à leur symbole. Ils ont mis au milieu un juif crucifié, et puis ça part des quatre côtés. Il a remarqué ça. Exactement ce que dit le Maharal. Israël est au centre, mais ils l'ont tué dedans. Vous voyez à quel point, bon, c'est ce qu'ils croient. Et alors, le Maharal explique, nous ne parlons que de Malchut Babel, Malchut Paras, Malchut Madaï, conquise par Paras. Et vous verrez quand vous étudierez le livre d'Esther, c'est que la dynastie perse apparaît comme ayant usurpé la dynastie des Mèdes. Ça s'étudie d'ailleurs dans l'histoire des historiens. Vayi bimei Ahashverosh, Hamolech, Mehodugatkush. Et Rashi pose la question, pourquoi écrire Hamolech et pas Hamelech? Il dit parce que c'est une dynastie, comment on dit ça en français, usurpée, qui a régné par force, qui n'était pas le roi d'eux, mais qui a régné par force. Et c'était au temps d'Assuérus qui a régné, Hamolech, qui a régné depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, mais au degré à gauche. Bon, et qu'est-ce que j'étais donc en train de dire? Oui, il s'agit de ces royautés de Babel. La royauté de Babel a été prise aux Hébreux, au peuple hébreu, du temps d'Abraham, et donc jusqu'au temps d'Abraham, depuis Ever jusqu'à Abraham, et nous aurons à étudier cela dans les cours que nous faisons. Ensuite, c'est la royauté de Madaï, qui est usurpée d'Israël de ce temps-là, puis la royauté usurpée par Yavan, la royauté usurpée par Edom. Seulement, Ishmaël, sa royauté à lui, lui appartient d'une toute autre manière. Elle n'est pas usurpée d'Israël. Et elle a sa capitale en Arabie, c'est un autre problème. La dispute sur la terre d'Israël, c'est un autre problème. Mais l'empire d'Arabie, si vous voulez, l'empire d'Ishmaël, c'est un empire bifnei atzmo, pour lui-même, qui ne fait pas partie de ces quatre-là. Parce que lorsque nous étudierons l'histoire d'Abraham, nous verrons que d'Abraham part deux lignées, Ishmaël qui reçoit sa propre bénédiction, ou l'Ishmaël chez Martira, Israël qui reçoit sa propre bénédiction. Et Ishmaël ne prend pas sa bénédiction d'Israël. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est le premier argument du Maharal. C'est pourquoi il nous dit, et donc il est clair que Ishmaël ne fait pas partie de ces quatre malchouyot. Et c'est pourquoi, dans toute la typologie de l'exil, l'exil en pays d'Ishmaël a toujours été considéré comme une annexe de l'exil dans Edom. Vous verrez toujours dans les textes, ça va ensemble, Edom vers Arav. C'est-à-dire, Edom, c'est là où les Ashkenazim étaient en exil. Arab, c'est là où les Sfaradim étaient en exil. Mais tout ça, c'est l'exil d'Edom. Est-ce que c'est clair le problème? D'ailleurs, nous voyons bien aujourd'hui cette alliance à tous les niveaux entre Edom et Arab par rapport à Israël, contre Israël. Encore dans les événements contemporains qu'on écoute à la radio, qu'on voit à la télé, dans les journaux, hier, aujourd'hui, demain, c'est le problème de l'alliance qui se cherche entre l'Amérique et l'Arabie Saoudite. Et finalement, l'Amérique, c'est la force de Edom, et l'Arabie Saoudite, c'est la force d'Israël. Vous voyez, ils ont le même tsar, dit la Kabbalah. Et chaque nation a son tsar, son prince céleste, et Ishmaël a le même prince céleste que Edom. C'est Samaël lui-même. Et alors, c'est le même. Et alors, il y a eu d'ailleurs à travers l'histoire une attirance, même lorsqu'il y a eu de violents conflits militaires, une espèce d'attirance profonde entre les grands de la chrétienté et les grands de l'islam. Je ne sais pas si vous sentez ça à travers l'histoire. Une espèce de fascination. Tous les grands empereurs européens ont toujours été glorieux de se proclamer protecteurs de l'islam. Vous n'avez jamais remarqué ça? Le dernier en date, historiquement, c'était Mussolini. Mais ça a été les Allemands, ça a été les Anglais, ça a été les Arabes, ça a été les Espagnols, je veux dire. Espagnols et Arabes, ça. Et les Français. La prochaine grande visite, la première grande visite de Mitterrand dans le monde, dans le vaste monde, c'était pour Riyad. La prochaine, c'est Alger. Entre-temps, il va passer par Jérusalem, mais c'est pas évident de se passer. Je sais pas, hein, je rien dit. Alors, on revient au problème. Donc, c'est la première réponse du Mahar. Enfin, il y a des Juifs qui s'agitent beaucoup pour que Mitterrand vienne à Jérusalem. Comme je vous ai dit, enfin, si je vous l'avais dit, jusqu'à présent, on avait le mythe du Juif errant, maintenant on a le Juif Mitterrand. Et alors, la deuxième explication que donne le Maharal est la suivante. Et alors, ça, c'est vraiment étonnant, ça va éclater comme ça. Il a d'abord bien expliqué cela. Ismaël ne fait pas partie de ces quatre empires parce qu'il n'a pas pris sa royauté d'Israël. Et puis, il ajoute, Veyoter nira l'Omar. Mais il y a peut-être plus, évidemment, à dire. Qui Ishmael ou Bichlal Mahout Paras, que Ishmael, c'est l'essentiel de la royauté de Perse. C'est même pas la peine de continuer là-dessus. C'est énorme ce que le Maharal dit là. Parce qu'il est bien évident qu'il s'est dévoilé de notre temps que l'impérialisme d'Ishmael, ce qu'on appelle le fanatisme de l'islam, a éclaté en Perse. D'où le Maharal savait ça, je sais pas. Mais je vous dis ce qui est écrit. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Khomeinisme, et qui travaille, qui est la force principale, qui travaille dans l'impérialisme fanatisme impérialiste de l'islam, dont Kadhafi en Libye n'est qu'une petite chloura. Et il est peut-être évident qu'un jour les historiens établiront, si ça s'établit, que